Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
L'émission de la BIP, Brigade d'intervention poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard. Bonsoir, amis de la BIP et de la poésie. Alors, d'abord, une petite rectification, vous l'avez corrigé de vous-même, ça n'est pas jusqu'à 22h, mais jusqu'à 21h que nous sommes avec vous. Et peut-être vous aurez l'impression que c'est jusqu'à 22h, parce que l'écho des choses restera en vous longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et ce soir, on est là pour parler d'un poète très particulier, d'un poète... un poète de l'oralité, un poète comédien, un poète acteur, un poète de théâtre, c'est Roland Dubillard. Voilà, Roland Dubillard qui est ce personnage qui déclenche une grande ferveur chez ceux qu'il aime et pourtant qui reste assez ignoré malgré toutes les décorations et les signes de reconnaissance qu'il a eus. Voilà. Donc Roland Dubillard, certains l'ont connu surtout par son théâtre, hein, par les dialogues, par des pièces de lui comme Naïves hirondelles, Si Camille me voyait, ou Boivent les vaches, qui ont été montées d'ailleurs par des metteurs en scène très prestigieux, comme Roger Planchon, Roger Blin. Mais c'est avant tout un poète, même son théâtre, c'est un théâtre de poésie. Donc on va passer ces deux émissions, puisque la première c'est aujourd'hui, la prochaine dans 15 jours, à parler du parcours de cet homme très particulier, une sorte de baladin métaphysique, Roland Dubillard. Donc on va parler un petit peu des choses biographiques. Où est-ce qu'il est né ? Il est né où, Yves, Roland Dubillard ?
Je crois qu'il est né à Marseille, non ?
C'est pas non, ça. Il n'est pas né à Marseille. Ah non, qu'il est né dans le Nord, il me semble.
Il est né dans le Nord.
Il est né dans le Nord. En tout cas, il est né en 1923 d'une famille,
Il est né à Paris.
Il est né à Paris. Voilà. On n'est plus fâchés. Entre le Nord et Marseille, on a trouvé. Oui, effectivement, il est né rue du Bac. Voilà, rue du Bac. C'est important parce que c'est une rue qui va revenir beaucoup dans son histoire. Oui. Voilà, il est né rue du Bac à Paris, d'une famille assez bourgeoise, assez riche. Il est même le neveu, je crois, d'un cardinal.
Ah oui, d'un évêque de Quimper, puis archevêque.
D'un archevêque de Quimper, voilà. Mais ça ne va pas du tout, ça va plutôt lui provoquer de l'urticaire juvénile.
C'est curieux, ça, d'ailleurs, oui.
Oui, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà. En tout cas, il le dit dans des textes, il détestait ses oncles. Enfin, il étouffe très vite dans le côté convenu de cette... de cette famille, mais un drame va le frapper très vite. C'est que à 13 ans, son père va mourir dans un accident de voiture. Et donc, je crois qu'il à ce moment-là, la famille était partie à Marseille. Voilà pourquoi Marseille. Elle revient vivre à Paris. Enfin, la veuve, sa mère revient vivre à Paris et il suit ses études à Louis-le-Grand. Donc, il fait des études de philo, C'est un brillant élève, mais c'est quelqu'un qui est déjà très dans le rêve, dans la métaphysique aussi. Il se pose beaucoup de questions. Et il va se retrouver donc Qu'est-ce qu'on avait dit encore sur sa famille? Oui, il a déjà le goût de la comédie. On voit sur certaines photos de jeunesse, on le voit déguisé avec des masques, habillé en Pierrot. Il a le goût du théâtre, quoi. Alors peut-être c'est une échappatoire, on ne sait pas, mais en tout cas, il est assez discret sur cette enfance. Mais il y reste très attaché, quoi. L'enfance est un petit peu le terroir, le terreau plutôt de son inspiration. Et peut-être on va lui laisser la parole, c'est peut-être le plus simple.
Chez le bouton pression, le colis se résume à la pénétration du gland du mâle dans la vulve de la femelle, de la femelle. Aussitôt celle-ci verrouille, plus question au gland de sortir. Ce baiser peut durer des heures, on n'obtient la séparation que par la décision d'un ongle. Surtout ne tirez pas à droite, surtout ne tirez pas à gauche, brutalement les deux pans du corsage. C'est ainsi que la toile s'étire et se déchire, au lieu que le bouton pression reste fixe dans son coït. Tirez encore et les deux parties de l'étoffe se séparent avec un froissement fatal, l'un gardant le coït et l'autre le perdant. Et voyez ces deux bouts à jamais séparés. L'un emporte avec lui le baiser tout entier, et peut-être s'en resservira-t-il. L'autre ne gardera pour lui qu'une déchirure éternelle, un accroc à partir duquel commencera l'effilochage, les fils qui se déchirent. Fragile araignée volante, puis pour finir, la disparition dans un courant d'air. Il en sera ainsi pour les deux bouts de soi, peut-être même après que le bouton pression lui-même aura cédé la place aux fermetures d'or qui zèbrent nos braguettes. Le cousin, la cousine, vive cousu, c'est connu. On se découpe comme on se coupe, mais il faut réussir son coup. Vous qui rêvez séparation, le cousin, cousine, penchez-vous sur le cas du bouton pression. Vous en tirerez des leçons.
Choses qui se cassent. Les bâtons, les roues, les carottes. J'ai vu quelqu'un, très jeune, il est vrai, si jeune que c'était déjà peut-être moi, pleurer parce qu'une carotte entre ses mains s'était cassée. Se cassent plus net les carreaux que les carottes. Jamais caresse ne se casse, mais souvent on s'arrête, pareil à tout ce qui est tendre. Les choses qui se cassent, le sang de la tendresse ne coule pas dedans, mais un sang sec et dur. Regardez plutôt les étoiles. Quiconque voit une étoile se dit « quelque chose a dû se casser ». Mais il ne peut imaginer ce qui s'est cassé, saignant ce sang brillant si différent du sang. Qu'importe. La cassure est une affaire non de physionomie mais de caractère. On dit les cascades, mais l'eau est si malade que rien ne s'est jamais vanté, pas même le vent, pas même l'immobilité d'avoir pu lui faire du mal. L'abîmer semble un jeu d'enfant, mais en vain des géants préméditent de l'abattre, c'est d'un bâton pourri d'avance. Pesante, son poids aux abîmes la prédispose. Mais si profond qu'il soit, l'eau s'y brise-t-elle? L'abîme la suce avec ses langues d'air, et la voilà fondue en l'air qu'elle embarrasse. On voit des trous fumés vers le ciel, enivrés qu'ils sont d'eau insaisissable. Mais l'eau ne casse rien, car qui casse, il sera cassé. Plutôt qu'avec les coups, l'eau s'entendrait avec la colle. Pierre, chose qu'on taille, reçois ce verre d'eau. Quoi ? Tu l'as mangé déjà avec ton immense absence de soif et de faim, avec ta mâchoire compacte aux dures dents dormantes? Tu l'as donc oublié déjà dans tes entrailles plates? Pierre encore humide et qui brille de ciel, tu as mâché, brisé mon verre, mais l'eau est intacte.
C'est compliqué parce que moi je me suis orienté très vite à la mort de mon père. J'avais 13 ans. Il était en faillite. Toute la famille, mon grand-père maternel et mes oncles, est venu, et j'avais vraiment l'impression que mon père n'était rien du tout. Et en même temps, j'avais une haine féroce contre mon grand-père et mes oncles. Je ne pouvais pas les piffer. Je me suis d'ailleurs mis en colère plusieurs fois contre eux. mes oncles, pas mon grand-père. Mais le parti que j'ai pris de faire une activité complètement superflue et inutile, ça m'est venu en classe de troisième déjà. J'avais 14 ou 15 ans. J'ai commencé à m'amuser avec les mots, à faire des dissertations qui parfois choquaient le professeur parce qu'elles étaient bourrées d'astuces et de sous-entendus. Et puis après, j'ai eu un professeur de français qui m'a encouragé dans cette voie. J'avais l'impression de ne pas être du même monde que ma famille, tout en lui piquant des tas de choses. Par exemple, dans la pièce que j'ai écrite « La maison d'os », le personnage principal est un mélange de mes deux grands-pères, avec un peu de moi dedans. Et puis dans « Naïves hirondelles », ces grandes conversations qui tournent en rond. Je suis natif du Nord, et dans le Nord, les gens sont très bavards, contrairement à ce qu'on croirait. Ils aiment bien se réunir, prononcer des discours à l'occasion d'un baptême. Mais j'ai toujours eu de la sympathie pour eux. Alors, le côté musical, c'est typique dans le troisième acte de Naïves hirondelles. Je me suis efforcé que les deux personnages qui restent en scène disent à des intervalles plus ou moins longs exactement le contraire de ce qu'ils ont dit avec des renversements constants. Il me semblait qu'on pouvait faire avec les émotions, la colère, l'attente, le désespoir, une sorte de musique. Je crois d'ailleurs, si j'ai le droit de croire quelque chose, je crois qu'il y a une racine commune à la musique et à l'émotion. Cela ne doit pas être vrai, mais c'est ce que je pense.
Voilà, c'est ce que pense Roland Dubillard. On l'aura compris, ce poète musicien et théâtral à la fois. Et c'était cette lettre qu'on voulait mettre en ouverture du récit de son enfance.
Samedi 10 août 1968. Hier soir, j'ai eu quelques difficultés à me remettre dans mes pensées beethoveniennes. Mais aujourd'hui, j'ai tout de même acheté un stylo. Premier pas observable. Il continue à pleuvoir. J'ai promené ma fille en voiture, histoire de causer. Elle m'a posé des tas de questions sur toi, en particulier si tu étais blonde. Je crois que je vais me décider à lui montrer montrer la photo que j'ai volée chez toi avant ton départ et qui te représente de face, souriante, au travers ou par-dessous des cheveux vagues, les yeux sombres, l'expression plutôt douce et accueillante. Je la regarde moi-même très peu, ayant peur de l'user. Avec l'habitude, les photographies perdent de leur présence comme des acteurs qui joueraient toujours devant le même public. Ta présence en moi se renouvelle selon un geste que je fais, une direction que je prends. Tes branches et les fleurs enveloppent mes escaliers. Je n'entends vraiment comme il faut une œuvre musicale et particulièrement cette sonate opus 31 numéro 2 qu'en imaginant le sujet qu'il a créé, en l'occurrence Beethoven au piano la jouant devant moi, avec la vague conscience des gestes qu'il fait avec ses muscles au-dessus du clavier. J'entendrai encore mieux cette sonate que j'écoute en ce moment si je pouvais la jouer moi-même, fût-ce très mal. J'ai écouté aussi le quatuor de Schubert que je t'ai emprunté. Il est si beau et si triste, mais quelque triste que soit Beethoven, il n'a jamais cet abandon, cette complaisance dans la tristesse, ce goût baudelairien de la beauté malheureuse qui rend Schubert à la longue toujours un peu écœurant. Il y a beaucoup de musiciens de cette sorte dont la beauté se compose d'un peu de poison. Mahler, Franck, Fauré, peut-être Wagner. Quand je suis avec toi, il m'arrive de te dire des choses comme ça, pas tout à fait des conneries, mais en tout cas des paroles hors de propos, sinon inutiles. Est-ce que je sais ce qui te plaît dans ce que je te dis? Si ce n'est que ma manière de les dire, malheureusement, mon écriture n'a pas le charme, dont je n'ai aucune raison de douter plus qu'un autre, de mon incomparable voix. Tu sais, te rappelles-tu ma voix? Une des grandes tristesses de ma vie familiale est d'avoir perdu tout souvenir de la voix de mon père. Je me rappelle tant de voix dont je n'ai que faire. Ça m'ennuie de descendre maintenant de ma chambre où j'écoute, où je te parle, où je vais travailler. Mais c'est, paraît-il, l'heure de dîner. Le dîner, comme une boule dans mon jeu de quilles, et tout à reconstruire après. Tout, c'est-à-dire un instant stable où m'installer. On ne pense pas à l'agressivité qu'il faut pour se construire un abri. On croit qu'un abri est une chose de passivité, mais il faut haïr la pluie et le soleil et le vent pour avoir la force de se construire un toit. Il faut un peu haïr tout le monde pour être seul. C'est cela que j'ai du mal à oser.
Voilà, c'est de Roland Dubillard qu'on parle et c'est lui qui parlait là à Maria Machado qui sera son épouse beaucoup plus tard dans sa vie. Évidemment, cette lettre est écrite une bonne trentaine d'années après le moment où nous en sommes, mais elle dit bien que cet homme a besoin de se construire dans une espèce de solitude. Voilà, c'est quelqu'un qui est confronté beaucoup à la violence. On l'a quitté là au moment où la guerre arrive. Il est étudiant à Louis-le-Grand, il est étudiant en philo. Il est ami avec toute une génération de gens qui vont devenir des auteurs, Pierre Dumayet, Alain Resnais, avec qui il tournera d'ailleurs des films plus tard, Romain Weingarten. Et une chose qui va être très décisive pour lui, c'est la fréquentation rue Férou de la Maison des Écrivains pendant la guerre, où il commence déjà à écrire. Donc on l'a compris, c'est quelqu'un qui est à la fois, qui se protège beaucoup, qui peut être très cassant parfois, mais qui a une grande tendresse cachée. Et les gens qui le côtoient à l'époque racontent, alors il commence à écrire des petites scénettes, à écrire des textes, et il y a cette... tout le monde se souvient de Roland Dubillard cassant des noix. C'est d'ailleurs un jeu de scène qui reprendra, je crois, dans je ne sais plus si c'est dans Naïve Zirondelle.
Dans Naïve Zirondelle.
Dans Naïve Zirondelle. Mmh. Donc, et il dit de ça, tout simplement, il venait sur scène et il se mettait à casser des noix, imperturbable, et ça déclenchait des tempêtes de rire. Et après, les copains venaient le voir en lui disant, mais d'où est venue cette idée? Il disait simplement parce que le bruit d'une noix qu'on casse est dramatique en soi, c'est pas la peine d'en dire plus, quoi. Voilà, il y a quelque chose de très profondément typique de Dubillard dans cette chose-là. Enfin, je pense, hein, c'est quelque chose qui aime le silence, qui a besoin du silence, qui a besoin de montrer les choses brutes et qui s'interroge beaucoup sur les choses, qui inverse tous les rapports avec les choses. Voilà. Donc c'est pendant la guerre. Il s'engage en 1943 dans la résistance, dans les FTP. Il passe sa licence de philo vers la fin de la guerre. Et il va commencer à la Libération, il fait son service, et il va aller jouer au Théâtre aux Armées en Autriche. Et c'est là d'ailleurs qu'il commence à écrire il a déjà écrit des courtes pièces, des scénettes, mais là, il écrit une pièce qui a été publiée il y a quelques années, qui s'appelle « Il ne faut pas boire son prochain ». L'importance de la tête.
La réussite des actes les plus difficiles, comme d'allumer l'escalier, être capable des actes les plus utiles, comme d'ouvrir la porte avec la clé, avoir marché quand la nuit tombait dans la ville autour de certains lieux bien connus, remonter l'escalier lumineux et tranquille et dire tranquillement « Je suis revenu ». On sent bien que tout ça est dû à la tête et que les mains et les pieds n'ont rien fait. Que c'est elle encore qui vous dit qui vous êtes quand vous la reposez sur l'oreiller du soir. Ce sont ses oreilles qui dorment aussi, et ce sont ses yeux qui se ferment, tandis que les pieds se contentent d'être épaissis parce qu'ils n'ont plus sous eux la terre ferme. C'est la bouche qui ferme ce qui était ouvert, et le nez qui retient là ce qui était partout. C'est par là la cervelle que le bleu devient vert, c'est par la tête entière qu'on est vraiment caillou. Sans la tête, on ne prendrait pas les autobus. On ne prendrait qu'un pour la dernière fois. C'est la tête qui fait qu'on peut parler en russe et qu'on ne se perd pas dans les bois. C'est pour ça qu'on ne donne jamais sa tête et que si on la penche, on éprouve du vertige. Les amis qu'on a, on voudrait que ce soit leur fête et pouvoir leur donner sa tête sur plusieurs tiges, car l'amour est une boîte où elle pourrait dormir. Et c'est dans cet espoir qu'elle prépare ses cheveux. Mais toujours elle pense à autre chose qu'à finir, les hommes tenant à la voir constamment sur eux. En elle s'embobinent les chemins qu'ils suivent, leur goût du jour et les sentiments qu'ils n'ont plus. Ils savent l'heure qu'il est et ce qui leur arrive par l'état de cette pomme où leur dent n'a jamais mordu.
Main, faire ou défaire, ta main prendra en l'air une boule un peu coléreuse, l'oiseau n'y tiendra pas, d'elle vers le dehors de l'air filera-t-il ? mais dans l'enclos de tes doigts enroulés, le tourbillon de son envol demeure. Trop légère, ta main maintenant presque planante, tu ne l'ouvriras pas, tu veux à toi ce qu'elle tient. Lourde ou légère de son envol, ta main ne tient plus qu'à un fil, elle est comme un fruit désiré par le ciel. Et contre le ciel un désir te vient. J'avalerai ma main comme un fruit défendu. Non, ta main n'a jamais été du royaume de ce qu'on pèse. Range-la dans une boîte au couvercle léger, range-la sous ton autre main. Ensemble, elles pèseront moins, mais seront les plus fortes. L'une divise l'autre et l'autre est son modèle. Et pour les joindre étroitement, la vis et l'écrou ne sont pas ici nécessaires. On ne prie pas avec deux mains clouées. Tes deux mains sont au bout de tes bras, les inspiratrices du ciel et leur paratonnerre. On ne prend rien avec les mains. On ne peut pas s'asseoir avec ses mains, ni rien asseoir. Toutes les manipulations des mains ne font pas qu'elles mangent. On soupèse avec elles des pommes, mais soi-même on pèse sur ses pieds. Et ce que l'on pèse, on le vaut. Sans le donner au sol, ce que tu pèses, tu le possèdes. Rien qu'à lever un pied, et tu le perds. Rien qu'à lever les deux, par contre, tu t'enlises. Ton pied t'entraîne à des voyages souterrains très inquiétants. La nature du pied le prédispose au piège.
Quand ta mémoire me reviendra, quand j'aurai reconnu mon armoire, vide des papillons que tu fis s'envoler, quand j'aurai téléphoné à quelques amis morts pour qu'ils puissent répondre qu'ils sont bien là et qu'ils ont cessé d'être morts, il sera temps pour moi de redescendre l'escalier, mais lentement. Et une fois, je collerai mon oreille au sapin d'une marche, cette marche que tu aimais, et j'entendrai ta voix. Ta voix ressemble au bruit d'un jeu de construction en bois. Quand notre mémoire nous sera revenue, je me souviendrai de ton âge, de ta cigarette et d'un bonheur broyé comme une grappe de groseille. Mais pourquoi l'avoir écrasée, rouge comme la voilà, et pourquoi l'avoir seulement cueillie? Tu ne vois rien, ni éclair, ni ampoule. C'est moi qui les connais, mais je reste aveugle pour t'accueillir. Je connais les lieux par mémoire, et dans ces quatre pièces où je vis, j'ai fait poser des microphones pour me prévenir de ton arrivée si tu viens. Le moindre bruit venu de toi, je l'entendrai par mon casque d'écoute. Pour tout le reste, je suis sourde. J'entendrai seulement l'instant où tu seras là malgré toi. Quand ta mémoire sera vivante, je me rappellerai tes yeux trop noirs et ta voix triste. Je l'entends déjà souvent quand il fait nuit, qui parle toute seule dans mes murs. Mon fauteuil pour t'asseoir, et mon divan pour t'y étendre, et mon plancher. Tout ce qui peut craquer, craquera quand tu viendras, et me signalera ton approche. Repose-toi. Souris, malgré la nuit opaque. Sans te voir, je te vois. Ta présence dans ma chambre gomme la nuit pourtant profonde. Et tout le noir disparaîtra d'un seul coup de ta foudre, toi, mon ampoule. Et tu te mettras à chanter.
5 novembre 1948. Note sur la poésie. Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs. Il est myope avec de gros yeux. Et il y a toujours quelqu'un qui vient de marcher sur ses lunettes. Il a déjà 4 filles, dont plusieurs ont été engrossées par il ne sait qui. Il aurait peut-être préféré que ce fût par lui plutôt que par ses courants d'air. Et sa femme le trompe, et sa mère n'est pas encore morte. D'une manière générale, il est empêtré dans une masse de femmes, L'une d'elles chante ses vers mis en musique et les autres font le chœur, tandis que certaines d'entre elles s'évanouissent ou tombent malades. Quand il n'est pas là, tout le monde parle de lui, et surtout de la partie la plus intime de son existence. Il souffre parfois de voir que son ami applaudit lorsqu'il pète, mais il souffre surtout de ses ennemis qui passent leur temps à le ridiculiser et à engrosser ses filles. Peut-être aimerait-il s'occuper d'autre chose que de lui-même, si seulement on lui en laissait le temps. Il s'endort brusquement, debout, et on l'emporte sur une civière, puis à travers les grasses campagnes sur un chariot tiré par des bœufs. Il remplace son ami par un cochon et disparaît dans le désert. Des oreilles et des yeux commencent à pousser sur les arbres, sur les meubles, partout où il ne regarde pas. Mais il résiste et se tait. Alors paraissent les lèvres. Le cochon se met à chanter, les grains de sable font le chœur avec les arbres et les meubles. Le poète va se pencher sur une source et il voit que son corps se disperse en oiseaux, fleurs et branchages. Il ne reste plus de lui que les yeux, la bouche ouverte et les oreilles. Un grand oiseau noir les avale et s'envole vers la maison du poète. Il s'y installe et rote si fort que toute la ville l'entend. Une cloche en est ébranlée. Elle tinte doucement en haut du clocher une seule fois.
Par principe, jamais deux fois il ne prenait son bain dans la même rivière. Le Tibre, le Mississippi, l'Amour, l'Yenisseï. La Marne et la Vistille étaient déjà biffées dans son carnet de bain. Son programme comportait pour les jours prochains le Rhône, le Danube et l'Oise. Il y a tant de fleuves, tant de torrents, il n'en manquerait pas, et même il savait bien qu'il ne parviendrait pas jusqu'à sa mort à se baigner dans tous. Etc. Etc. Et il parlait, en se tortillant tout joyeux. On n'osait pas lui faire mettre en doute son interprétation de la parole d'Héraclite, qui veut dire tout autre chose. Car enfin, le nombre des fleuves n'est qu'un petit côté du problème posé. La vraie question concerne l'eau, et plus spécialement son caractère d'être courante. L'eau ressemble à notre voyage, messieurs. Tout voyage est en quelque sorte liquide, et c'est bien le courant qui fait qu'il y a des choses courantes. Que sommes-nous de plus que l'eau ? Nous circulons comme elle, et son voyage dans les murs côtoie le nôtre. Il suffit d'y prêter l'oreille et d'être immobile. On l'entend. Elle ne nous tutoie pas. Elle court, elle voyage, plus ou moins vite selon la demande. Et nous, notre voyage est liquide comme elle.
Thank you.
Nous parlons de Roland Dubillard, poète, acteur, poète de théâtre. Et on l'a laissé juste à la fin de la guerre. On a parlé de sa rencontre avec toute une génération d'auteurs, de comédiens, d'écrivains par le biais de la Maison des écrivains. Et juste après la guerre, donc il est parti au Théâtre des Armées et il va commencer à produire énormément de textes, de nouvelles, de poèmes, de courtes pièces. Il rencontre Villard, il suit des cours avec Jean-Louis Barrault, il rencontre le mime Marceau, il rencontre Tatiana Mouchkine. Et il va commencer.
Il va rencontrer sa première femme.
Et il va rencontrer sa première femme, Michel Dumézy, dont il aura deux enfants, qu'il épousera plus tard en 1949. Il rencontre aussi, il commence à travailler avec Alain Resnais, hein, pour un court métrage. Il commence à travailler aussi pour la radio, et c'est ce qui va l'amener petit à petit. Enfin, donc il commence à vivre de sa plume. Peut-être pas de façon impériale, mais enfin, voilà, enfin, il a décidé de toute façon, depuis le début, qu'il ferait quelque chose, comme il l'a dit, de complètement inutile, enfin, de merveilleusement inutile.
Mais et... alors, ce qui est curieux, c'est que le court-métrage qu'il fait avec Alain Resnais s'appelle « L'alcool tue ».
Oui, et c'est une longue histoire, que Roland Dubillard aura avec l'alcool, hein, puisque il usera toute sa vie, enfin toute sa vie, disons jusqu'au moment d'ailleurs où il sera atteint d'une attaque, quoi, de médicaments et d'alcool. Mais il y a une chose qui va faire un tournant dans sa vie, en tout cas qui va le propulser un petit peu sur le devant de la scène, en tout cas le rendre très populaire, c'est le fait qu'il commence avec un comédien qu'il rencontre qui s'appelle Philippe de Chérisy et qui joue ils se mettent en duo pour faire des sketchs, hein, qui vont donner naissance à ce qu'on appelle les dialogues, hein, qui sont devenus maintenant des classiques dans tous les conservatoires de théâtre d'aujourd'hui, hein, sous le nom d'Amédée et Grégoire, qui est une sorte de duo de cabaret, et c'est Roland Dubillard qui écrit les textes, qui sont des textes, voilà, teintés de des textes complètement, on va dire, absurdes. C'est un petit peu bête, c'est même absurde de dire absurde parce que c'est tellement galvaudé, quoi, mais qui sont, voilà, des espèces de réflexions à partir de petits événements complètement quotidiens, quoi, et qui finissent en véritable imbroglio métaphysique, voilà, hein, c'est-à-dire on s'interroge sur un truc tout bête, voilà, on arrête de fumer, avant vous arrêtez de fumer, moi aussi j'arrête de fumer, ça commence comme ça, et puis petit à petit on se pose des problèmes sur la mémoire, sur mais oui, mais si on a oublié pourquoi on a arrêté de fumer, c'est parce que le tabac nous fait perdre la mémoire, etc. Enfin, voilà, tout événement microscopique est pris comme une espèce de façon d'entrer dans les choses et de s'y perdre.
Alors, ce qui est intéressant là, c'est que la radio, dans le début en tout cas de sa carrière entre guillemets de poète, a joué une importance très, très forte, puisqu'il a commencé la radio en 1947. Grégoire et Amédée, c'est une commande de France Inter.
Oui, ça ne s'appelle pas encore France Inter, hein. À l'époque, c'est la radiodiffusion française.
C'est possible. Oui, bien sûr.
Et donc, effectivement, il commence, et c'est en 1953 qu'il commence à travailler avec dire ces dialogues, oui, qui deviennent très, très populaires. Hein. Et on admire ce Roland Dubillard qui va jouer dans des tas de pièces. Il va être non seulement l'acteur de ses propres pièces, mais aussi l'acteur pour des tas d'autres auteurs. On va l'entendre, d'ailleurs, on va l'entendre lui-même parler avec cette voix dont il parle dans la lettre à Maria Machado, cette voix si particulière. Voilà, c'est extrait d'un disque qu'on a réalisé qui s'appelle Cabaret Dubillard, hein, qui avait été un disque extrait d'un spectacle que j'ai monté en 99 avec Ariane Dubillard, sa fille, avec Rocavet, et on a eu la chance de pouvoir, Roland Dubillard nous avait donné deux extraits qu'il avait enregistrés lui-même. Voilà, donc Roland Dubillard dit « donner ».
Donner. Donner un arbre est-il possible? Cet arbre-là que j'avais sous la main, je l'ai donné ou j'ai cru le donner. J'aurais donné des feuilles de laurier tout aussi bien. J'ai demandé autour de moi quelque chose à donner la première venue. J'ai vu l'arbre et j'ai dit l'arbre. Il résonnait comme un silence où la parole est prête. L'ai-je coupé? Je ne l'ai pas coupé. Ai-je parlé de chaque feuille? La nuit était si grande, on aurait dit qu'avec son clair de lune, elle avait chaque feuille à elle, et elle a emporté dans son silence mon silence intact. Qu'ai-je donné? Est-ce qu'on donne? La moindre pierre ne m'appartient pas. Qu'ai-je donné? Mais ce grand désir de donner lui-même ne m'appartient pas. C'est par la nuit que tu me tiens, ma belle, c'est par la nuit que je disparaîtrai. Qui ne s'est retourné dans sa nuit, étonné d'être noir aussi, j'ai reconnu l'immensité sans être immense. J'ai dit « Venez, puisque le ciel semble sur moi pour qu'on en vienne. » Trop fort à quelques draps peut-être j'ai tenu, trop fort à ma chaleur contre les vents étranges. Dans la nuit j'ai construit ma nuit, j'ai couché mon ombre avec l'ombre. Le plaisir a pris mon plaisir, mon souffle m'a donné au vent.
Il a fait semblant de ne pas m'avoir vu, mais j'ai bien vu alors qu'il ne voyait plus rien. Et quand je l'ai perdu de vue, pendant des heures, on m'a dit qu'il a fait le tour de la ville. Je l'ai vu revenir de très loin et tout droit, à la façon de ceux qui savent bien mon nom. Et il m'a dit aussi ce qu'ils me disent, mais je ne l'ai pas entendu. Je me disais, que va-t-il devenir ? Combien de temps demanderont ses yeux ? Car ses yeux n'étaient pas de leur couleur encore, en sorte que ce n'est pas vraiment lui qu'à cet instant j'ai vu venir, mais sa main qui venait la première. Et tandis que cette main, à la rencontre de la mienne, venait, pareille à des oiseaux, j'aurais juré que je devenais pâle et trouble, comme font lorsqu'on les approche les nuages. Et puis, voyant que je ne pensais plus à moi que comme à des oiseaux qui s'éloignent, il dit « Je reviendrai ». Et il a redressé autour de moi les champs et remis le bois dans ses lignes et les reflets des feuilles dans le fleuve, il les a replacés dans l'arbre avec les feuilles. Et sous ses yeux, le fleuve a retrouvé sa vraie couleur. Et moi, quand il est revenu, j'étais très claire à cause de mes yeux qu'il regardait. Et quand il m'a touchée, j'ai vu s'ouvrir à leur vraie place et calme les cailloux du jardin comme une maison blanche.
Chose qui se brise, chose qu'on taille. On taille une chemise et on la perd. Mais personne n'a jamais cassé sa chemise. Robe de bal taillée, robe de bal perdue, usée, effilochée, moisie ou mémorable, jamais on n'entendit jeune fille parler de sa robe de bal cassée. Choses qu'on perd sont encore autre chose. Que savons-nous de plus ? Je sais que ce qu'on peut casser n'est jamais immense. Je sais que l'homme est double et qu'il y a en lui, d'un côté ce qu'on peut casser, de l'autre ce qu'on peut couper. L'homme n'est pas immense. Il ne fond pas. L'immensité, quand il y entre, il y éclate. Dans son sang, quelque chose fait que son sang ne se mêle pas à la mer. J'ai vu dans une goutte d'eau éclater ses globules. Ce qui se casse en l'homme empêche qu'on le coupe. Chose cassée, chose jetée, chose recollée. Ô porcelaine, je ne me souviens pas de t'avoir connue plus douce qu'à cette fraction de seconde où ta fêlure se fit jour. Est-ce que tu souriais ? Au bout de mes doigts, sur le bord des lèvres de mes doigts, la commissure de tes lèvres, cette légère foudre arrivait comme de très loin à travers ton frêle orage. Nul orage n'est éternel. Au marbre levé sur la pointe des pieds, le ciel se marie. Comme j'ai vu le ciel à travers la voie lactée se frayer à la nage un chemin respirable, j'ai vu le ciel cueillir la porcelaine. J'ai vu le ciel venir se reposer dans la toile fragile et secrète des faïences, puis s'en aller, laissant une lézarde en elle pareille à la frayeur des zèbres. Débris, fragments, esquisses et morceaux.
Thank you. trago um fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. De mim só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto à procura no meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
Voilà, après cette belle mélopée de Marissa, on revient à l'histoire de Roland du Billard, donc après la guerre, qui commence à faire des succès de théâtre et qui écrit, qui produit énormément de textes et qui va commencer à... Donc rien que citer les titres de ces pièces, ça donnerait un petit peu l'idée de, par exemple, la méditation sur la difficulté d'être en bronze, les mémoires d'un fumeur de tabac français... Et il va commencer à concevoir la boîte à outils, qui est... en fait, il existe deux recueils de poésie à strictement parler de Roland du Billard. L'un qui s'appelle « Je dirais que je suis tombé » et l'autre « La boîte à outils ». Et « La boîte à outils », il le conçoit comme une sorte de... un poème dont la forme n'a jamais été inventée auparavant. C'est à la fois, il le conçoit à la fois comme un opéra sans musique, comme c'est un petit peu le récit d'une sorte de marche, de pèlerin. Il y a deux choses qui s'intercalent un peu tout le temps dans ce long poème qui fait tout un livre. Cette boîte à outils, donc, c'est à la fois la marche de ces pèlerins en quête d'on ne sait pas quoi, une sorte de marche, de traversée du désert, dans laquelle ils se posent des tas de questions toutes simples. Qu'est-ce que c'est que marcher voilà, comme on l'a entendu dans un texte auparavant, sur les mains, sur les pieds. Et aussi, toute une réflexion autour des outils, mais des outils au sens très large, c'est-à-dire des outils, tout ce qui sert à l'homme, la baignoire, le marteau, la scie, mais aussi la porte, toutes sortes de choses, le bouchon, enfin, toutes sortes de choses utiles, utilitaires, voilà. Et c'est une interrogation qui traverse toute l'œuvre de du Billard. Donc la boîte à outils, ça va parcourir quasiment, je crois, il commence à écrire ça dans les années 53 ou 54, et ça paraît beaucoup plus tard, à la fin des années 60, je crois, Au secours, Yves.
Oui, oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Il va donc, il va y avoir une rencontre très passionnelle avec Nicole l'Admiral, dont il aura une fille d'ailleurs, Ariane. Et ça, ça se passe dans les années, au milieu des années 50. Et cette jeune femme, qui est une comédienne très brillante, très, très belle, qui tourne d'ailleurs, je crois, dans un film de, qui a tourné dans un film de Bresson, même peut-être dans plusieurs films de Bresson, qui a joué aussi pour. Oui, j'ai un trou terrible. La chanson de Tessa Hanouille, que Nicole l'Admiral se suicidera deux ans après leur rencontre. Voilà. Donc ce sont des grands chocs dans sa vie. Il va divorcer donc, de Michel Dumézy et suit une période pendant laquelle, évidemment, il continue à écrire. Il s'attache à écrire La Maison d'Os, qui avait été une de ses grandes pièces, Naïve Hirondelle aussi. Et il va rencontrer dans les années 60 Arlette Trainer, qui tient d'ailleurs le cabaret de la Contrescarpe. Et là, il va se produire toujours avec Amédée dans son duo, mais Arlette Trainer va être aussi celle qui va le mettre en scène, qui va commencer à, disons, à faire marcher un petit peu la machine, à le faire conquérir plus de domaine théâtral. Voilà. Donc, dans les années 60, on va le laisser dans une courbe ascendante de poète, écrivain de théâtre très, très productif. Hein. La Maison d'Os, Naïve Hirondelle. Puis, vers la fin des années 60, Le Jardin aux Betteraves. Il est traducteur aussi. Il traduit des pièces de l'anglais David Mercer. Voilà, on va donc le laisser à cet endroit avant que, Yves, tu nous dises les robinets.
Le robinet du gaz est fermé. L'eau courante a rentré ses griffes, ne bondira plus de la nuit sur nos mains, de sa nuit longue comme elle. La porte est fermée, la serrure dort comme une charnière. L'eau courante est immobile, elle pèse dans son tuyau comme si elle n'existait plus. Elle ne boude pas, elle dort. Car l'eau courante, quand elle ne court plus, est-ce encore de l'eau ? Il faudrait le prouver par l'épreuve du robinet. Le chat rentre ses griffes. Il n'y a plus en lui le moindre mouvement, ni la moindre trace de bond. Un chat privé de griffes et de bond, ce n'est plus un chat. La souris s'y trompe. Le chat n'est pas là. La souris est le robinet qui, d'une absence de souris à la présence des souris, tourne à l'envers du sens des aiguilles de la pendule. Tourne sur elle-même, afin de libérer non pas un jet d'eau sous pression, mais le bond, lui aussi, sous pression du chat. Si violente pression que hors de toutes ses pattes jaillissent des griffes multipliées par 10. Dans la nuit brillent parfois, plus éblouissantes que des courts-circuits, d'électriques explications qui laisseraient pâles les lampes. De sa nuit, longue comme elle, l'eau courante va sortir comme sort le matin. À moins que, givrée dans ses robinets par un froid plus fort que le cuivre, elle ne fasse éclater leur tête grinçante de tigres de luxe en furie. La fenêtre ouverte sur la mer, les yeux ouverts sur le livre qui s'ouvre, c'est la mer qui donne et la fenêtre qui reçoit. De quoi va-t-il s'agir ? Qu'est-ce qui va venir par ce livre entrouvert ? Pas un courant d'air, ce n'est pas une porte. Pas un spectacle, ce n'est pas une fenêtre. Pas une voix. Le livre qui s'ouvre n'ouvre pas l'oreille plus que ne le fait la gorge du muet.
Thank you.
Voilà, nous arrivons vers la fin de cette première émission consacrée à Roland Dubillard, une émission qui laisse le temps d'entendre les choses comme il sait les entendre. Je voulais simplement rappeler que cette émission donc, est produite par la BIP, la Brigade d'Intervention Poétique. Je voudrais d'abord remercier les musiciens et citer les CD dont on a extrait les différentes parties musicales. Donc ce cabaret du billard, ce disque cabaret du billard qui est extrait d'un spectacle que j'ai monté avec Ariane Dubillard et Roch Avet, voilà, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur notre site www.michelarbatz.com. La musique de Charlie Mingus, Fables of Phobus, Ophélie Gaillard qui nous jouait du Debussy, puisqu'on sait que Roland Dubillard a adoré Ludwig van Beethoven, mais c'est Debussy qu'on a mis. Et des extraits de l'Atelier du peintre, du musique du spectacle du Cirque Plume, composé par Robert Mini, voilà, et Marissa, qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà. Donc, cette émission est faite par la BIP, mais vous pouvez retrouver la BIP aussi en chair et en os dans vos lieux de travail, dans vos lieux de loisirs, dans vos lieux de paresse.
Dans vos lieux d'amour.
Dans vos lieux d'amour, évidemment, dans vos maisons, chez vos amis. Voilà, il suffit de nous faire signe. Vous pouvez envoyer des mails à la radio. Nous cherchons aussi, si vous voulez, comme on fait parfois des collectes du sang, nous faisons des collectes de voix. Si vous voulez donner de la voix, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez le faire savoir. Vous pouvez voilà, également nous contacter par le biais de la radio ou par le biais du site que j'ai donné. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On avait pensé, comme cadeau de fin d'émission, de vous donner quelques petits aphorismes de Roland Dubillard, comme par exemple « Le nez au milieu du visage ne crève pas les yeux de son propriétaire. » »«
Ce qui se casse en l'homme empêche qu'on le coupe. »
Une cartouche neuve est pleine de perdreau en poudre.
Comme dit un proverbe borgne, pour loucher, il faut être deux.
Les habitants de la maison n'ont jamais bouilli dans leur propre marmite.
Être une femme dispense au moins d'en avoir une.
Il y a toujours quelque chose qui vous écrase, ne serait-ce que votre propre poids.